Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end. Avec Marie Zévan GP, avec toi Oussem, comment ça va?
Ça va très bien depuis ce matin, bonsoir tout le monde.
Le programme
ici. Et le RMC Sport Show revient sur la disparition de Bernard Tapie ce matin. L'ancien boss de l'Olympique de Marseille s'en est allé à l'âge de 78 ans, de Lille à Marseille. On sera avec nos envoyés spéciaux pour vivre avec vous cette journée si particulière. À 19h30, retour sur le Paris-Roubaix. Sonny Colbrelli s'impose pour sa première participation sur la course. Débrief de ce monument français avec notre druide à nous, Cyril Guimard. Et à 19h45, l'invité du RMC Sport Show, Alexis Pintureau, le vainqueur du dernier gros globe de cristal en ski alpin, nous fera un point sur sa préparation d'avant-saison. Dans 3 semaines, la compétition reprend ses droits.
RMC Sport Show.
Mais avant ça, on a du football en Angleterre, la Premier League, la 7e journée de la Premier League. C'est Liverpool qui reçoit Manchester City sous les yeux de Johan Bredov. Salut Johan.
Salut Oussem, salut Thibaut, salut à tous. Un partout entre Liverpool et Manchester City, 75 minutes de jouer. Le premier buteur, c'est Sadio Mané, buteur à la 59e minute sur une passe de Mohamed Salah, évidemment. Et à la 69e, c'est Phil Foden qui a répondu à cette ouverture du score en égalisant pour les Citizens grâce à un magnifique de travail de Gabriel Jesus qui a repiqué dans l'axe, il était sur son côté droit et qui a donc trouvé Phil Foden qui a trompé Alisson. Un partout, 76 minutes de jeu entre Liverpool et Manchester City.
Merci Johan.
C'était un personnage du sport français, patron d'équipe cycliste, vainqueur du Tour de France avec Bernard Hinault, emblématique président de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993. Bernard Tapie est mort ce matin des suites d'un cancer. Il avait 78 ans.
Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau.
But, but de Boli, but de Basile Boli sur ce corner.
Et je vois Boli qui prend un coup, qui est pas comme ça. Et il se roule par terre de douleur. Il demande à sortir. Et comme on est à 7 minutes de la fin, je dis au Toki Walki, à l'entraîneur, Raymond, essaie de le maintenir jusqu'à la mi-temps. Et à la mi-temps, si ça va pas, tu le sors, mais là, essaye.
Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions.
Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai annoncé que je voudrais que ce club soit le premier à gagner la Coupe d'Europe.
Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis!
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
J'ai sûrement eu, par moments, des moments d'égarement ou des conduites qui n'étaient pas satisfaisantes. Dans mon entourage, on me l'a dit, mais je plaide non coupable.
La une
du RMC Sport Show.
Et nous sommes en direct ce soir avec un membre de la Dream Team, mais ce soir c'est l'ancien joueur, le champion d'Europe 93 qu'on accueille sous Bernard Tapie, Eric Dimeco dans le RMC Sport Show. Salut Eric.
Salut Thibaut.
Salut Eric. Alors,
Eric, on va entendre ta première réaction sur RMC ce soir dans un instant. On va juste retrouver Arnaud Valadon qui est à Lille, qui est au plus près des Marseillais, les Marseillais
staff,
qui viennent
joueurs.
De perdre à Lille 2-0. Arnaud, bonsoir. Merci
bonsoir.
D'être avec nous. T'as commenté le match sur RMC il y a quelques instants. T'as même fait plus que ça, t'as passé la journée collée au Marseillais. Raconte-nous cette journée particulière pour cette équipe pour laquelle Bernard Tapie a tant fait par le passé.
Alors les joueurs de l'Olympique de Marseille sont arrivés hier à Lille et ce matin dès 9h il y avait déjà des supporters. C'est normal, il y a toujours des supporters quand l'Olympique de Marseille séjourne dans un hôtel parce qu'on a envie de voir les joueurs et de sentir un peu de les encourager. Et ils étaient une dizaine à avoir appris le décès de Bernard Tapie devant l'hôtel en centre-ville de l'Olympique de Marseille, donc ici à Lille. Et beaucoup d'émotions. Ils étaient une centaine au moment du départ du car à 2h du coup d'envoi et tout le monde avait pas la voix un petit peu tremblotante, beaucoup d'émotions, et il n'y avait pas de supporters de l'Olympique de Marseille des Bouches-du-Rhône à Lille puisqu'ils ont été interdits à la fois par un arrêté ministériel et un arrêté préfectoral. Donc ce sont des locaux, des gens du Nord, du Pas-de-Calais, fans de l'Olympique de Marseille, parce que vous le savez, l'OM, il y a des fans partout en France qui sont venus près de l'hôtel, des chants pour encourager les joueurs, et chacun avait une anecdote, un souvenir pas forcément personnel, mais souvent c'est ce titre de 93 qui revenait. Et Il y avait des supporters de 50 ans, de 40 ans, qui ont connu donc les grandes années de l'Olympique de Marseille dans les années 90, mais aussi des jeunes de 20 ans qui n'ont pas connu Bernard Tapie à la tête du club et qui connaissaient le boss, comme il est appelé, parce qu'ils ont appris l'histoire de l'OM et que quand on s'intéresse à l'OM, quand on est fan de l'OM, eh bien la culture de l'OM, c'est Bernard Tapie. Et ils nous en parlaient comme s'ils avaient connu ces années-là. Et c'est ça qui est frappant, c'est le côté intergénérationnel que Bernard Tapie arrivait chez les Marseillais à provoquer et à faire intéresser.
Merci, merci Arnaud Valadon en direct de Lille ce soir dans le RMC Sport Show.
Eric, encore une fois, merci à toi d'être là. On sait que c'est une journée un peu particulière pour toi et c'est très difficile de prendre la parole. Ma première question, elle est surtout au minot que tu as été. On le rappelle, toi, tu as été formé à l'OM. Quand tu arrives après des prêts dans le groupe professionnel, tu arrives dans cet OM de Bernard Tapie. Quelle est la première impression qu'il a dégagée en toi ?
Écoute, la journée a été dure. Hein. Moi, j'ai une pensée pour... son épouse. Ah merde. Putain, je suis désolé les gars.
Il n'y a pas de souci, Eric.
Eric Dimeco, ouais, on comprend la.
Ah, je pensais que j'arriverais, excusez-moi.
Eric, tu étais proche de la famille, on l'entend.
Oui, moi, c'est 8 ans de ma vie. Hein. Et on s'attendait à ce qu'il partait, puisque. On avait des nouvelles pas très bonnes. Et alors moi, c'est rigolo parce que j'ai une relation particulière avec lui parce que j'ai jamais été... Moi, pour moi, ça a toujours été mon patron. Je l'ai toujours appelé président. Je l'ai toujours vouvoyé. Et j'avais pas de relation particulière avec lui tant que j'ai joué avec lui. Il a même été dur des fois avec moi hein, puisque il était tellement exigeant que beaucoup de mes copains ont été obligés de partir à des moments de l'histoire du club quand lui il voulait avancer, qu'il sentait que ça avançait plus quoi. Donc à un moment donné ça aurait pu être mon cas, et donc j'avais une pensée pour son épouse et ses enfants parce que je sais que Dominique, son épouse, a souvent œuvré en coulisses pour que je reste. Il me l'avait avoué un jour et je suis parti de l'OM brouillé avec lui. Et on ne s'est plus parlé pendant un long moment et je l'avais recroisé un jour en vacances en Tunisie. On avait repris contact et voilà. Bon, c'est bizarre parce que autant j'avais des coéquipiers qui étaient très proches de lui, qui l'appelaient Bernard, qui le tutoyaient, avec qui il parlait au téléphone régulièrement. Moi, j'étais un joueur de l'effectif, j'étais pas une star, j'étais formé au club. Moi, quand il arrive en 86, je suis là, je le vois arriver, je vois débouler cet homme qui arrive des affaires, on voit que le club va passer dans une autre dimension. On était en finale de Coupe de France, c'est lui qui nous avait présenté au président Mitterrand ce soir-là. Et après, l'OM est devenu tellement grand que moi j'ai été obligé de partir pendant 2 ans en prêt. Puis je suis revenu en 88 au moment où le club, on fait le doublé la première année, puis le club prend la dimension qu'on a connue. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance de croiser cet homme-là et de travailler avec lui, quoi. Parce que il y a des hommes qui sont exceptionnels ou extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, lui en faisait partie. Je le répète, moi j'ai jamais été un de ses fils, comme on dit, dans le vestiaire, mais par contre je sais que je l'avais par texto à la fin. Et on avait une affection particulière l'un vers l'autre par rapport à ce qu'on a vécu, quoi.
Eric, merci de nous livrer ta réaction, ton sentiment, de te mettre un peu à nu ce soir dans le RMC Sport Show. On est touché aussi de t'entendre comme ça. On comprend et dommage que tu sois loin. J'ai envie de te prendre dans mes bras, Eric.
J'ai essayé de pas parler de la journée pour être digne, mais j'y arrive pas.
Dessus non plus.
Il y a aucun problème avec ça, Eric. Tu as un message de Maryse qui est avec nous.
Je peux pas te dire grand chose parce qu'effectivement la première réaction ça serait de te prendre dans mes bras très clairement. Tu sais, il y a pas de dignité dans ces moments-là. Je pense que il y a clairement de l'affection. Moi je suis très 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 frappée par justement cette affection qu'a réussi ce président-là, je trouve que l'OM a... dur pour l'OM, parce qu'en moins de deux ans, ils ont perdu... Vous avez perdu deux présidents emblématiques, dont un légendaire, clairement, donc Pape Diouf, et puis le légendaire, c'est clairement Bernard Tapie. Et peut-être, et je pense que tu seras de cet avis-là, que le point commun entre ces deux hommes, c'était justement ce côté... humain qu'ils avaient réussi à tisser avec toutes leurs équipes, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, quel que soit le parcours de Bernard Tapie, qui n'a pas été linéaire, qui a été excessif dans tous les sens, mais toujours avec quelque chose de très humain.
Oui, mais il a... Mais, tu sais, j'ai écouté Pascal ce matin, Olmeta, qui est passé pour lui rendre hommage tôt ce matin, là, il était 10h, entre 10h et 11h. Et pareil, Pascal a eu une relation particulière parce que ça a été chaud à la fin, ça s'est pas très bien fini. Je sais qu'il et quand j'entends Pascal comme il en a parlé, ça m'étonne pas de Pascal parce que c'est un vrai mec. Mais voilà, parce que les côtés positifs pour nous, mais même pour les gens à l'extérieur, voire même pour ceux qui ne l'aimaient pas. Les côtés positifs dépassaient les mauvais côtés et moi je ne garde que les bons côtés parce que je le répète si il arrive pas en 86 au club ce club VGT moi je suis arrivé ici en 80, le club est en deuxième division, on a mis 4 ans pour remonter les deux années avant qu'il arrive c'est lutte pour pas descendre et quand il arrive le club change et ma vie change aussi quoi parce que s'il vient pas à l'OM je fais pas la même carrière et j'ai pas la même vie aujourd'hui quoi. Et puis il y a ce côté là mais il y a le côté sa personnalité quoi. Moi, je le répète, j'étais un petit soldat du groupe, mais il était tellement collé à nous. Il arrivait le midi quand il y avait les matchs le soir. Il bouffait à côté de nous, il trempait son pain dans notre sauce, quoi. Il venait. Il avait toujours un mot pour les mecs, c'est-à-dire que bon, je lui disais, mais il aurait été gourou, il aurait eu une secte avec des millions et des millions d'adeptes, tellement qu'il était fort. C'est-à-dire qu'il Bon, déjà au niveau du foot, il a compris le foot. Il est arrivé en 86. Il a compris le foot plus vite que les mecs qui baignaient depuis la plus tendre enfance. Moi, je l'ai vu, mais ça a été raconté 100 fois. Faire des causeries d'avant match à la place du coach, quand le coach, il savait que
ce qui devait pas être toujours facile.
Ah non, mais il en a épuisé plus un. Hein. Il les appelait à 3h du matin. C'était terrible de travailler avec lui. Mais même nous, hein, puisque nous, il nous fliquait aussi. Et quand il y en a un qui s'amusait à sortir un peu tard le soir, il se faisait tirer les oreilles. Voilà, bon, il avait ce... Mais être au contact d'un homme comme ça, même moi qui regardais ça de loin, parce que je le répète, je restais dans mon coin. Je sais que j'ai eu cette chance-là de côtoyer de si près un homme comme ça. Et je l'avais recroisé un jour avec Dugas, on faisait l'émission, il passait à BFM TV, il était arrivé un peu avant, donc il était venu nous voir dans le studio... Il était beau avec ses cheveux blancs, là. Il avait sa voix un peu cassée. Et dans la maladie, lui qui était quand même un homme bon, qui roulait sur tout, hein, il roulait sur tout ce qui lui faisait obstacle. Il avait ce côté peut-être pour les gens qui ne l'ont pas côtoyé, pour les gens qui l'ont haïssé. Parce que bon, quand on fait la carrière qu'il a fait, que ce soit dans les affaires, dans le sport, dans la politique, généralement,
il y a la moitié. Il faut pas être dans le camp en face, hein.
Voilà, non, ouais. Puis il y a la moitié des gens qui t'aiment, et l'autre moitié des gens qui t'aiment pas. Je sais que les derniers mois, quand on a vu cet homme, comment il s'est comporté dans son combat contre le cancer, ça l'a rendu humain. Il a continué à m'inspirer, quoi, parce que, c'est pas ce qui va nous arriver dans la vie, comme Emma, ils ont commencé à être vieux. Et moi d'abord, ouais, et on sait qu'on peut être confronté à la maladie, ouais, que ce soit pour soi ou pour les autres. Et quand je l'ai vu. Plusieurs fois dans les reportages, où bon, il y en a beaucoup qui passent à ce moment. Ben, j'espère être aussi digne que lui si j'aurais mes rêves un truc, quoi. Parce que quel monstre. Quel monstre.
Eric, c'est sur ces derniers mots qu'on va te remercier infiniment d'avoir d'être passé nous faire un coup ce soir.
Il y a pas de souci, Eric.
C'était beaucoup d'émotions pour nous aussi que t'entends, Eric. On t'embrasse fort. Merci d'être passé nous voir et on se retrouve très vite. Il est 19h17, c'est le RMC Sport Show, Marie Zévan GP. Et là, c'était Eric Dimoco. On est sur la disparition de Bernard Tapie qui est mort ce matin, 8h40, des suites d'un cancer à 78 ans. On est en direct de Marseille avec Nicolas.
Exactement, on a un envoyé spécial donc qui est parti très tôt ce matin pour poursuivre les événements au plus près. Nicolas Pelletier, tu es donc à Marseille. Tu as même pu regarder le match qui opposait le LOSC et l'Olympique de Marseille avec les supporters marseillais. Quelle est la température sur place ?
Oui, je suis avec Rachid Zeroual. On vient d'écouter Eric Dimeco en direct dans la voiture, là, devant le local. Tu as trouvé ça tout juste ? Il a tout résumé, Eric ?
Il a plus que résumé la situation. Ce qui est... Il n'y a pas mieux qu'Éric Dimeco pour nous commenter la vie de Bernard. Hein. C'est un mec qui a tout fait. Il en a tellement fait que maintenant, le guerrier, il nous a laissé. Le guerrier qu'il a été, voilà, il nous a montré ce que c'était la vie. Il nous a montré qu'est-ce que c'était d'être un homme dans toute sa splendeur, parce qu'il a mené des combats. Mais même s'il a perdu ce dernier combat, il est allé au front à tous les niveaux. Il a jamais eu peur de quoi que ce soit. Et même dans son dernier combat, il voulait servir d'exemple pour ceux qui avaient cette putain de maladie, quoi. On est touché parce qu'il nous a fait vivre. Il nous a fait vivre à travers l'OM tellement de belles choses et de bonnes choses, même si des fois il nous poussait à bout, il poussait tout le monde à bout. Hein. C'était ça, c'était son rôle. Hein. Il a rempli comme il devait le faire. Hein. Il est venu à l'OM. Il n'a pas dit qu'il venait pour faire de l'exhibition. Hein. Il est arrivé à l'OM. Il a dit je veux gagner. Il a pris ce club au plus mal et il a construit une ville autour, une passion. Il a construit des supporters. Il a construit tellement de choses que on le comprenait pas tellement. Il avait une vision autre que la nôtre et ça a été le plus fort. Hein. Ça a été le plus fort parce que l'année où on gagne cette Coupe d'Europe, ouais. Même là, en ayant pris Rudy Voleur, 33 ans, un boxiche qu'on connaissait pas, alors qu'on avait eu des Enzo Francescoli, on avait des Moser derrière, on avait commencé avec des Karl-Heinz Foster, des Alof. Il nous a ramené des joueurs de tous les horizons. En 93, on a cru que c'était fini, que l'OM était éteint avec l'équipe qu'il avait construite, parce qu'il n'y avait plus de starlettes, comme on disait à l'époque, des mecs qui faisaient du spectacle. Il nous avait ramené des guerriers de sa trempe. Ouais, et c'est avec ces gens-là, encore une fois de plus, qu'il nous a donné une leçon. C'est avec ces gens-là qu'on a gagné la Coupe d'Europe. Ouais. Voilà Bernard, c'était le mec qui allait jusqu'au bout de ses ambitions, jusqu'au bout de tout, et il te démontrait par A plus B qu'il te transcendait aussi bien les joueurs que les supporters, que notre ville. Il nous demandait l'excellence, mais à sa manière. On le passe surnommé le boss pour rien, parce que je pense qu'il se faisait autant de mal lui qu'à nous. Quoi. Il était détestable et appréciable à la fois, quoi, parce que c'était lui, voilà, c'était Bernard. Ouais.
Rachid, t'es le leader des South Twitter. Une petite question, quel hommage vous allez lui faire dans les prochains jours ?
On a laissé passer tout, on ne s'est pas appelé les groupes, hein, je vous dis la vérité. Quand il y a des moments comme ça, on laisse passer la journée. Quand il nous tombe un drame dessus, on s'y attendait. On se demandait, pour lui, on croisait les doigts pour que ce soit le plus tard possible, pour sa famille, pour son entourage, sa femme, comme il a su très bien le dire Eric, quoi. On va s'appeler demain ou après-demain, dès qu'il va venir. Je pense que ça va être long, mais le 17 octobre, là, contre l'Orient, je pense qu'il va y avoir quelque chose avant. On est un peu déboussolé, on est un peu perdu, on n'a pas le moral là pour aujourd'hui, c'est restons soft, on improvise rien, chacun il se met de son côté avec son groupe, et je pense que là il ressortira quelque chose de bien. Bien sûr qu'on va lui rendre hommage, il le mérite. Il a fait briller l'OM sur le toit de l'Europe. Il a fait briller Marseille, il a fait briller tout le monde. Cette étoile qui brille encore sur le maillot, c'est la sienne, quoi. Il faudra lui rendre.
Rachid Zerwal, donc leader des winners supporters, groupe de supporters marseillais, au micro de Nicolas Pelletier en direct depuis Marseille.
Bernard Tapie est mort ce matin à 78 ans des suites d'un cancer, président de l'Olympique de Marseille. On continue à en parler dans un instant, c'est avec Florent Germain qui nous expliquera, qui nous donnera les dernières informations sur ce qui va être prévu à Marseille dans les prochains jours, les souvenirs également de Jeannot Rességuier. Et puis Bernard Tapie, le foot, Bernard Tapie, vélo également, patron de Bernard Hinault sur le 5e et dernier de ses Tours de France remportés. Petit clin d'œil du destin, il y avait un énorme Paris-Roubaix aujourd'hui. On en parlera également avec Arnaud Souk dans quelques minutes. Le RMC Sport Show continue jusqu'à 20h avec Marie Zévangépé. Et ce soir, vos nombreux messages pour Eric notamment. On vous remercie, à tout de suite.
RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grande.
Et Marie Zévangépé, merci d'écouter RMC. On est là en direct comme tous les dimanches jusqu'à 20h pour revenir sur ce week-end de sport et évidemment sur la disparition aujourd'hui de Bernard Tapie. Après 19h30, on basculera sur le côté un peu plus sportif et d'ailleurs très d'union avec Bernard Tapie puisqu'on parlera vélo et cette édition de Paris-Roubaix incroyable avec de la boue, de la pluie, du vent.
Un vrai Paris-Roubaix, l'enfer du Nord.
Comme on n'en avait pas vu depuis des années.
Allez, on passe aussi au live qui se conclut. C'était le choc de la 7e journée de Première Ligue entre Liverpool et Manchester City. Ça s'est fini sur un match nul, Johan Bredov.
Et oui, tout s'est décanté en seconde période. 2-2 entre Liverpool et City. Les buteurs, je vous les donne, l'ouverture du score par Sadio Mané à la 59e. Foden égalise à la 69e. 5 minutes plus tard, Salah marque le but du 2-1 et De Bruyne a égalisé donc après avoir vu sa frappe contrée par Matip. 2-2 entre les deux équipes. Au classement, Chelsea est toujours leader avec 16 points. Liverpool 2e, 15 points et City est troisième avec 14 points, égalité avec Manchester United, Everton ou encore Brighton.
C'est chaud dans ces 4 premières places de Première Ligue. Merci Johan.
Compliqué pour Pep Guardiola, il y avait Pep Genesio aujourd'hui hein, pour battre le PSG.
À chacun son Pep.
C'est celui qu'il fallait pour battre le PSG. Merci Johan. 19h26, on retourne à Marseille, retrouver en direct notre correspondant, le correspondant RMC Sport, Florent Germain est sur place. Salut Flo. Merci d'être avec nous ce soir dans le Sport Show. Tu as des infos sur ce qui est prévu à Marseille, au club, dans la ville également, pour rendre hommage à Bernard Tapie dans les prochains jours, Florent.
Oui, évidemment. Alors très tôt, Franck McCourt notamment s'est fendu d'un communiqué pour parler de Bernard Tapie en un homme au courage remarquable et à la vitalité impressionnante. Il y a eu également les mots de Pablo Longoria, très ému devant la caméra, en promettant que le club saura lui rendre un digne hommage. Alors c'est vrai qu'il y a eu notamment cet après-midi une minute de silence lorsque les jeunes et toutes les catégories de l'OM évoluaient, notamment à l'OM Campus. Il y a eu un magnifique portrait devant le Vélodrome qui a incité les supporters assez spontanément à se rassembler, à déposer des fleurs, à écrire le moindre petit témoignage touchant. Il y a eu des chants aussi de supporters qui se sont rassemblés, pour certains derrière une banderole Stade Bernard Tapie Vélodrome. On verra, ce sera un dossier des jours ou semaines qui viennent. En tout cas, le Vélodrome sera ouvert 3 jours, l'OM l'a annoncé par la voix de Jacques Cardoz, le directeur de la communication, ouvert à tous ceux qui veulent, dans un recueil de condoléances, eh bien, glisser un mot à Bernard Tapie ou à la famille, puisque tous ces témoignages seront donc donnés à la famille de Bernard Tapie. Une chapelle ardente sera dressée. La volonté de la famille, c'est ce qui a beaucoup touché les Marseillais ici, c'est que, on le sait, Bernard Tapie souhaite inhumer à Marseille. Ce sera probablement au cimetière de Mazargues dans les quartiers sud de Marseille. Et il y a aussi cette possibilité donc que le cercueil de Bernard Tapie vienne une dernière fois au Vélodrome. Le regret qu'ont beaucoup de Marseillais, pour terminer, c'est justement qu'il n'ait pas pu venir ces dernières années. Et pourtant, en fin de saison dernière, il y a eu une volonté et même une réunion avec quelques supporters et Pablo Longoria pour essayer de faire le maximum, contacter la famille. Mais Bernard Tapie était déjà très fatigué. Voilà, ça restera un petit regret, mais le fait qu'il soit inhumé à Marseille est pour beaucoup de Marseillais un signe très fort. Et il y aura évidemment une cérémonie très touchante dans quelques jours. Ce sera à la cathédrale de la Major, juste en face de la mer.
Merci beaucoup Florent Germain en direct de Marseille. Bonne soirée à toi Flo. 19h28, le RMC Sport.
Toujours dans ces enchaînements de témoignages, on en profite nous pour faire témoigner un personnage de RMC qui l'a vu, qui a vécu aux côtés de Bernard Tapie dans sa carrière. C'est Jeannot Rességuier qui est en direct du stade Geoffroy Guichard. Jeannot qui commente le match ce soir.
Salut Jeannot.
Salut Jeannot.
Qui l'a croisé surtout et à plusieurs reprises et qui a eu de ses nouvelles de façon directe et indirecte pour quelques anecdotes avec notamment cette inimitié avec Bèze. Moi à l'époque je suis correspondant à Toulouse, je fais les matchs des Girondins de Bordeaux et un soir de 91 il y a un match où ils font match nul un partout et à la fin c'est à l'Escure dans l'ancien stade et la possibilité dans ce qu'on appelle le paddock de voir Claude Bèze qui me met un vent terrible Bernard Tapie est à côté, il me connaît pas, il sait pas qui je suis, il voit juste le micro RMC et parce que je venais de prendre un vent avec Claude Bèze, il est venu, on a fait l'interview, on a discuté un petit peu avec un large sourire et un Claude Bèze à côté assez médusé quoi. Après c'était l'homme politique, le député, encore une fois moi quand j'étais à Toulouse il venait voir son ami maire et qui ensuite était député maire radical de gauche, Bernard Chal à Cahors. Il y a eu des périodes avec RMC, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a été sur le maillot devant, derrière, alors ça dépendait aussi des moments, quand les relations entre la radio, entre à l'époque Radio Monte Carlo, voilà,
bon,
exactement c'est arrivé très souvent et à cette époque-là, c'était une époque un peu chafouin ou chafouine, et il était venu donc à Cahors, et moi je suis allé, comme on le faisait à l'époque tous les correspondants, tendre le micro, et là on était deux avec un collègue de Sud Radio, la même couleur de micro, et là il me dit non, ce micro-là, en parlant d'RMC, je peux pas, c'est pas possible, donc on fait l'interview, je pose quand même des questions, il me répond pas, mon collègue à côté continue à poser des questions, il lui répond, et à la fin on termine l'interview, il me prend par l'épaule et puis il me dit non mais c'est rien, j'ai rien contre vous, c'est simplement que voilà, il m'agace du côté du rocher, c'était son expression. Et puis après bon, il y a eu l'histoire de cette soirée du 26 mai 93 où là encore une fois je prends la route, je suis d'alerte pour aller renforcer à Marseille le dispositif parce que voilà, s'il y avait cette victoire, il y a eu cette victoire avec le but de Boli, moi je vis le match à la radio, à l'époque c'était Radio Monte Carlo, je le vis à la radio et j'arrive à Marseille et je me retrouve avec du monde partout au Vieux-Port sans vraiment connaître correctement la ville. On fait du reportage, on voit les gens qui plongent dans le Vieux-Port le lendemain, l'aéroport, ils arrivent très tard au stade et je passe 4-5 jours là-bas et finalement comme on était quand même plus ou moins partenaire avec la radio, j'ai eu la possibilité de le rencontrer, de discuter avec lui et d'avoir la possibilité de me rendre compte du passionné qu'il était et passionné aussi des médias parce que l'oublions pas, on l'a eu à RMC en 99 à 8h30.
Allô Bernard.
Il faisait une émission qui s'appelait Allô Bernard, voilà. Et puis même quand il était à Paris et que ça l'agaçait qu'on vienne le déranger après le titre de 93, il y a ce fameux cette fameuse préparation, ce stage à Font-Romeu où l'Olympique de Marseille avait ses habitudes et on se fait mais dégager tous les journalistes parce que à ce moment-là il était hors de question de parler alors qu'il était à son bureau parisien et il avait donné les ordres à ce que tout le monde ne soit pas là. Bon, c'était sa façon de protéger donc le club, sa façon de protéger ses joueurs, et le lendemain au bord de la piscine de l'hôtel on faisait des interviews quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui savait ouvrir les portes. Et après dans la deuxième version OM en 2001, là même si ça n'a pas duré longtemps, on a eu l'occasion de le voir. Il était auditeur d'RMC, il écoutait souvent l'Arkifoot le dimanche matin. Il lui était arrivé même comme pour Didier Deschamps d'appeler, de faire le 32-16 et de l'avoir au bout du fil avec Jean-Michel Larquet. Ça reste des moments extraordinaires. J'ai le regret de ne pas avoir commenté à l'époque 91 et 93 de ces belles années de Marseille, mais au moins grâce à ça et grâce à cette façon dont l'OM a grandi au travers du foot et sur la place européenne, on est pas mal de journalistes à avoir aussi grandi avec l'envie de faire ce job.
Merci Jeannot pour ces anecdotes. Merci, et de nous raconter ton Bernard Tapie, celui que tu as côtoyé dans tes jeunes années ici sur RMC. Alors il est 19h32, c'est le RMC Sport Show, on va parler vélo dans quelques minutes, mais Jeannot, on l'entend, on l'a dit avec Oussem, tu es au stade, tu as Geoffroy Guichard pour commenter ce soir le derby Saint-Etienne-Lyon à 20h45 sur RMC. On va descendre quelques mètres parce que Jeannot, il est dans la tribune de presse et on est avec Édouard Jay qui va commenter avec Jeannot ce soir, qui est lui, Édouard, au bord de la pelouse. Salut Édouard, et tu es au bord de la pelouse pour une raison bien précise, c'est que pelouse compliquée pour ce soir, Édouard.
Oui, bonjour Thibaut, bonjour Marine.
Salut Édouard.
Et effectivement, alors vous savez, c'est un petit peu comme à chaque fois, on veut vous parler d'un fait et au moment ça s'arrête. Là, je voulais vous parler de la pluie qui était l'invité, pas surprise, hein, parce qu'on le sait depuis quelques jours, ici sur la région Rhône-Alpes et notamment sur la Loire, il y a eu un avis de grosse tempête édité hier soir par Météo France. Et donc, il pleut beaucoup sur la région Rhône-Alpes, plus particulièrement sur le stade Geoffroy Guichard. Alors, pour l'instant, ça s'est un petit peu calmé parce que justement, ça va être comme ça ce soir. C'est par vague, mais alors quand ça pleut vraiment. Et, les délégués me disent que pour l'instant, il n'y a aucun souci pour le match ce soir. La pelouse va tenir. Elle a déjà tenu hein, dans le match Saint-Etienne-Bordeaux. Donc ce soir, elle va tenir pour le derby. Donc aucune incertitude par rapport à ça. La seule incertitude, c'est les conditions. Peut-être à un moment donné, ça risque d'être un petit peu difficile pour les 22 acteurs. Ça n'a pas empêché le stade d'être presque plein, on va dire. 36 000 personnes ce soir. On rappelle que les 2 000 places pour les Lyonnais n'ont pas été données. Donc 35-36 par rapport à 40 000, si on imagine la jauge totale. Ben voilà pour ce soir, pour ce 123e derby sous la pluie. Derby pluvieux et on espère quand même heureux au niveau football.
Merci Edouard G en direct du bord de la pelouse de Geoffroy Guichard. On te retrouve dans une vingtaine de minutes, une dizaine de minutes même pour avoir les compos dès qu'elles tombent hein, puisque le match aura lieu à 20h45 sur RMC. Mais d'ici là, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marie Zévon GP. Le cyclisme dans un instant et ce Paris-Roubaix de légende. A tout de suite.
Oussem
Moussaïev,
Thibaut
Jean-Grande. Ah oui, nous connaissons là notre avenir quand même. La dame a pas eu le temps de finir sa phrase. Marie-Zévon GP est là également, comme tous les dimanches, on est là jusqu'à 20h pour débriefer cette actu sport du week-end. À suivre Oussem dans 5, 7, ouais, 8 minutes.
19h45 exactement, c'est l'invité du RMC Sport Show, Alexis Pinturo, le dernier vainqueur du Grand Globe de Cristal, sera avec nous. Il nous fera part de sa préparation et des compétitions qui démarrent dans 3 semaines. Ça arrive vite.
Mais d'abord du cyclisme, l'enfer du Nord n'a jamais aussi bien porté son nom ces dernières années. De la pluie, du vent, de la boue, plein le visage et les maillots, Paris-Roubaix d'exception, remporté aujourd'hui par un Italien, Sonny Colbrelli.
C'est parti pour le sprint. Gianni Moscon qui a rentré sur le vélodrome et qui pourrait peut-être perturber le sprint de Colbrelli et de Van Der Poel. C'est Vermeersch qui a décidé de prendre les devants. Vermeersch qui a décidé de prendre les devants, qui pour l'instant dépasse dans le vélo Sonny Colbrelli. Mais peut-être Sonny Colbrelli parviendra-t-il à redéborder Vermeersch et s'imposer. La victoire de Sonny Colbrelli, la victoire de l'Italien sur cette 118e édition de Paris-Roubaix. Et le voilà, il s'arrête, il freine, il prend son vélo, il lève son vélo, il s'écrase dans la boue. L'image est formidable, l'image est fabuleuse, c'est ça Paris-Roubaix, c'est pour ça qu'on aime l'enfer du Nord. Magnifique victoire de Sonny Colbrelli.
La deuxième période du RMC Sport Show.
C'était en direct sur RMC.
Oui, mais la Gadou, bien sûr.
Avec Armaris,
tu valides la Gadou?
Ah, complètement. On ne peut pas avoir un meilleur choix que cette chanson, évidemment.
Arnaud Souk qui vous a commenté la course cet après-midi sur RMC, est en direct dans le RMC Sport Show ce soir. Rebonjour Arnaud.
Mesdames, messieurs, bonsoir.
Salut Arnaud.
Bon,
salut
Arnaud. Arnaud, c'est le plus beau des Paris-Roubaix là depuis une vingtaine d'années, non?
Le plus beau, je sais pas. En tout cas, celui dont on se souviendra de manière certaine. Voilà, hein, tous les coureurs que j'ai pu interroger à l'issue de la course tout à l'heure ont dit, voilà, on se souviendra tous qu'on y était. On pourra tous dire qu'on y était. Et ceux qui l'ont terminé, on pourra dire en plus qu'on l'a terminé. Ça va forcément rester dans les mémoires. On avait en mémoire déjà l'édition 2001 hein, qui avait été remportée par Servais Knaven, le néerlandais, et qui s'était couru dans des conditions similaires, on va dire, à celles d'aujourd'hui. Voilà, moi, en tant que observateur, c'est sûr qu'il restera gravé dans ma mémoire parce que bon, c'est le premier pluvieux que j'ai la chance de commenter. Oui, c'était juste incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui au bord de la route. Vous avez parlé de la boue, vous avez parlé des visages maculés de terre. Il y a eu des chutes innombrables. Enfin bon, ça a été vraiment une course rocambolesque en fait. Voilà.
Arnaud, je profite du climat. Tu parlais de la pluie, de la boue. Il y avait des spectateurs sur le côté. Est-ce que tu as pu en croiser quelques-uns? L'ambiance, quelle était l'ambiance autour de la course?
Bah, après 2 ans et demi de silence, hein, Paris-Roubaix faisait son retour. Normalement, il aurait dû avoir lieu en avril, mais il avait été reporté en octobre pour les raisons que l'on sait liées à la crise sanitaire. L'an passé, il n'avait pas eu lieu. Donc la dernière édition datait d'octobre 2019. Donc il y avait une impatience, on va dire, rarissime pour les fans de Paris-Roubaix, voilà, de retrouver leurs forçats de la route. Ils les ont retrouvés. On a notamment vu les images du carrefour de l'arbre, hein, l'un des 3 secteurs pavés mythiques, l'un des 3 secteurs 5 étoiles où voilà vraiment les cyclistes ont fondu la foule, il y avait énormément de monde. Et puis au Vélodrome à l'arrivée également, malgré une météo un petit peu capricieuse, on a vu du monde. Alors c'était peut-être pas la ferveur des grandes années à cause de cette météo. Les gens ont peut-être préféré justement regarder ça devant leur télé, mais il y avait quand même une belle émulation, on va dire, avec ce public présent.
Maryse, est-ce que Paris-Roubaix, quand il fait beau, qu'il n'y a pas trop de poussière, est-ce que c'est vraiment un Paris-Roubaix?
Si, quand même, parce que rien que les pavés, déjà, d'abord, c'est, visuellement, c'est magnifique. Moi, je me suis abonné au compte rien que pour voir les photos et les images de Paris-Roubaix qui sont toujours sublimes. C'est-à-dire que même quand il ne pleut pas, la campagne est sublime, les chemins sont magnifiques, mais c'est clair que la boue rajoute une dimension de forçat de la route qui est assez incroyable. Et c'est fascinant de voir ces gueules de cyclistes à l'arrivée, maculés de boue. Ouais. Et qui en redemandent encore, qui quasiment se jettent dans la boue à l'arrivée tellement ils sont crevés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était l'image du Paris-Roubaix. Alors le vrai, le grand, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, les nuits de la pleine lune, quand les nuits de loup-garou, tu sais, celles qui sont un peu brumeuses et tout. Et ben c'est pas la pleine lune si t'as pas la brume, si t'as pas, ben c'est pareil Paris-Roubaix, si t'as pas la boue, si t'as pas l'enfer, si t'as pas le vent, si t'as pas la pluie, c'est pas tout à fait Paris-Roubaix.
Et tu, mais t'as déjà croisé un loup-garou?
Non, mais des cyclistes, oui.
C'est pas la question. C'est pas la question.
Là, tu m'as fait un peu peur. Je vais en faire chez moi ce soir.
Si vous me permettez, il y a quand même une, voilà, Paris-Roubaix, on pourrait raconter 1000 histoires de la France avec, avec Paris-Roubaix, 125 ans d'existence, 1000 histoires de la France, mais une en particulier quand même, celle des, voilà, on était dans les entrailles du Nord aujourd'hui, on était dans les entrailles de ce pays minier, et c'est vraiment une allégorie du travail à la mine. Alors, je veux pas faire, voilà, l'historien pédant, etc., mais il y avait vraiment ça qu'on a retrouvé aujourd'hui. Il y a des secteurs pavés qui passaient juste au-dessus d'anciennes mines où il y avait des mineurs de fond qui descendaient à 300, mais voilà, on avait l'impression de voir ça aujourd'hui avec ces visage maculé de boue, et il y a quand même un petit appel à une notion historique qui manquait depuis quelques années, et là franchement les photos, c'est sûr, dans tous les cas elles resteront dans l'histoire.
Les photos et les images, Arnaud, l'arrivée de Sonny Colbrelli qui s'impose, qui tout de suite soulève son vélo avant de s'effondrer, on le voit pleurer, rigoler en même temps, enfin il était complètement dans un état second, mais il gagne Paris-Roubaix sur sa première participation, là aussi ça n'a pas dû arriver souvent, Arnaud.
Alors, ben, tu sais quoi, les trois qui se sont sprintés à la fin, c'était leur première participation. Voilà. Donc, Van Der Poel, Colbrelli et Vermeersch participaient pour la première fois à Paris-Roubaix. Alors, te dire, la dernière fois que c'est arrivé, à quand ça remonte, je n'en serais pas tout à fait capable. Il faudrait se replonger dans les archives, mais pour ça, je fais confiance à des gens qui sont très compétents chez nous. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi la victoire d'un bonhomme qui sait tout faire. C'est-à-dire qu'on le sait sprinteur, on le sait également correct grimpeur, on l'avait vu la semaine dernière au championnat du monde poursuivre parfois un petit peu Julien Alaphilippe. On s'est dit, tiens, il sait faire du pavé, lui, il sait rouler sur les pavés. Ben voilà, on en a eu la preuve aujourd'hui, il sait effectivement rouler sur les pavés. C'est un virtuose, Sonny Colbrelli, voilà, un petit peu décrié parce qu'il appartient à une équipe dont les performances ont beaucoup fait parler cette année, qui est la Bahrain Victorious, et donc qui avait été victime, notamment, enfin victime, qui avait été l'objet d'une descente de la brigade spécialisée dans l'antidopage sur le dernier Tour de France. Mais enfin bref, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui ne lui est reproché à ce garçon. Mais voilà, c'était aussi à dire, et en tout cas il sait tout faire, ça c'est une certitude.
Merci beaucoup Arnaud Souk sur Paris-Roubaix. Est-ce que, juste que je ne l'ai pas sous yeux, le premier Français il termine combien, tu l'as ou pas? Et sinon,
alors ça doit être Christophe Laporte, si ma mémoire ne me trompe pas, je pense qu'il est 6e.
Merci beaucoup Arnaud.
Je pense qu'on peut aussi, non il faut rajouter quand même que Lizzie Daignan a gagné le Paris-Roubaix chez les femmes, et je veux le rajouter parce qu'à chaque fois
on l'a vécu en direct, Marie-Zi.
Oui, je sais, je vous écoutais, hein. Mais on dit toujours le Paris-Roubaix et on parle des hommes.
Non, on dit Paris-Roubaix d'ailleurs, on dit pas le Paris-Roubaix.
Oui, d'ailleurs, on dit Paris-Roubaix, pas le Paris-Roubaix. Attention,
vous écorchez les. C'est comme le Real de Madrid. Et voilà, retenez Lizzie Daignan aussi, parce que même si elle n'a pas eu droit au grand Paris-Roubaix, c'est-à-dire qu'en gros, elle n'a pas eu droit au saut de boue, au vent et à la pluie.
Peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup Arnaud Souk d'avoir été en direct.
On confirme la 6e place de Christophe Laporte avec une minute 16 de retard.
Frédéric Guédon, 97, le dernier, attendra comme Yannick Noah attend depuis 83 et Bernard Hinault. Merci beaucoup Arnaud, 19h40. Le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Maryse. Dans un instant, notre invité. Dans trois semaines, ça sent bon le ski, le début de la saison de ski alpin. Oui. Alexis Pinturo, vainqueur du gros globe de cristal dans le RMC Sport Show dans un instant.
RMC Sport Show,
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand.
Et Maryse Evangépé, merci d'être fidèle au rendez-vous de votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. On est là jusqu'à 20h. Ensuite, ce sera l'after. Dans un instant, c'est notre invité.
Alexis Pinturo, il sera là normalement d'ici quelques minutes. Il devrait arriver dans pas longtemps pour parler de la nouvelle saison de ski qui arrive dans trois semaines. Ça risque de s'annoncer très chaud pour lui.
Et si vous nous écoutez à la maison ou en voiture peut-être, merci beaucoup. On est très heureux de vous accompagner jusqu'à 20h.
RMC Sport Show,
la minute foot.
Eh oui, la minute foot, parce que la 9e journée de Ligue 1 s'achève dans un peu moins d'une heure. Coup d'envoi 20h45 du derby entre Saint-Etienne et Lyon. Et c'est officiel, Edouard G,
les compos viennent de tomber.
Oui, déjà celle de Lyon qui est tombée légèrement avant celle de Saint-Etienne que nous donnera Jeannot juste après le temps qu'il la déchiffre. Donc Anthony Lopez donc dans les buts, la défense centrale autour de Sinali Diomandé et de Jérôme Boateng. Donc ça veut dire que Jason Denayer par précaution est sur le banc. Léo Dubois est son brassard de capitaine côté droit et Enrique, confiance à celui qui avait remplacé Emerson parce qu'Emerson bien évidemment est suspendu après son carton rouge la semaine dernière. Voilà pour la défense, le reste eh bien c'est le 4-2-3-1 on va dire habituel avec Maxence Cacré et Bruno Guimaraes en soutien on va dire d'Aouar, lequel est en soutien du nouveau numéro 9, celui qui s'occupe de tout, Lucas Paqueta, et sur les côtés flanc droit le Suisse Zerdan Shaqiri et Karl Toko et Kambi, l'homme en forme, celui des matchs et des buts en Coupe d'Europe notamment cette semaine. Donc de l'autre côté voilà ce 4-2-3-1 concocté par Peter Boss.
Ce sera une défense à 4 pour Saint-Etienne. Il y avait l'incertitude éventuellement de rester sur une base de défense à 3 qui n'a pas très bien réussi, on le rappelle, avec 3 matchs nuls et 5 défaites consécutives, avec le retour du jeune Étienne Green, le bien nommé, dans le but après sa suspension. Kolo Dziedziak avec Moukoudi en charnière, Camara côté droit, Trauco côté gauche au milieu de terrain, Neyou avec Youssouf. Ensuite il y aura Boutbouz sur les côtés avec Bouanga et Kazri juste pour jouer derrière ou accompagner Nordin en pointe de l'attaque. Voilà pour les choix de Claude Puel pour cette formation pour le 113e derby.
Merci Jeannot et Edouard en direct.
Rapidement Edouard, les conditions climatiques n'ont pas changé.
Ça, c'est par vague, ça pleut, ça pleut beaucoup moins, puis ça pleut beaucoup, et la pelouse, vous l'a dit tout à l'heure Edouard en direct, depuis le bord de cette pelouse de Geoffroy Guichard, elle a l'air de tenir. Je suis pas convaincu qu'elle tienne toute la partie, hein, si on reste dans le ton d'un derby, mais bon, on verra ce que ça donne.
Restez pas trop loin, messieurs, dans ce RMC Sport Show, parce que depuis tout à l'heure, on vous dit que l'invité du RMC Sport Show arrive. Il arrivera peut-être pas, Maryse ou Sem. Voilà, on nous dit que Alexis Pinturo est à la mairie de Troyes sur une représentation avec le CNOSF.
De laquelle il devait être libéré il y a quelques minutes.
Il y a quelques minutes, donc voilà.
On... Bon, bah, bouge pas, on va appeler CNOSF tout de suite.
Ouais, vas-y, Maryse,
après, tu connais un peu ces événements, Maryse, de CNOSF.
Ah, bien,
directement, Brigitte.
On parle juste après. Non, mais bon, en tout cas, la saison de ski alpin démarre dans 3 semaines. Une énorme saison parce que Alexis Pinturo va devoir à la fois défendre son gros globe de cristal qui
vas-y redis-le.
Ah non, oui. On va
la couper.
Je pense que t'as galéré avec le globe.
C'est pas grave, on n'est pas en direct, on va la couper, on va la refaire. Il va défendre son gros globe de cristal qui a remporté les dernières. Et puis il y a les Jeux Olympiques déjà. Exactement. Qui arrivent d'hiver à Pékin en février prochain.
Le 80 février exactement.
Exactement, il visera le seul titre qui lui manque. Le titre olympique. Donc bon, on espère juste une chose, c'est qu'il
faudrait que la mairie de Troyes le libère quand même.
Oui, qu'il soit un peu plus à l'heure sur les épreuves que ce soit. 19h53, les rendez-vous à suivre sur RMC à partir de 20h.
L'after, bien sûr, autour de Gilbert Bribois et de Nicolas Villas, en fil rouge, cette affiche dont on vous parle depuis tout à l'heure, le derby entre la AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, deux dynamiques différentes. Les Lyonnais vont bien, les Stéphanois un peu moins.
Là, en fait, vous avez ouvert une boutique d'ameublement, c'est ça, hein?
Non, pas du tout, parce que en fait, ce soir, Jeannot, il y a énormément de rendez-vous. Parce qu'il y a le match que vous allez commenter, cet énorme derby à 20h45. Il y a également ce soir de la MotoGP.
Exactement, à 21h, le Grand Prix des Amériques. C'est comme ça qu'on dit, Jeannot. Tu vois, il y a pas de meubles. On parle de sport.
Il y a pas de rugby.
Et il y a du rugby aussi.
Justement, y a
avec Damien Tardieu.
La conclusion de la cette cinquième journée de Top 14 avec le dernier
et
match.
On peut vous faire la météo aussi.
Qui opposera
Edouard,
Clermont
si tu
au Racing 92. 21h05. De ceux qui vont dire que vous allez encore vivre une énorme soirée de sport sur RMC.
Du football, de la moto, du rugby. Jeannot et Edouard G.
Choisis quoi? Tu zappes sur quoi ce soir?
Rugby.
Il y aura un peu de rugby, il y aura un peu de MotoGP, il y aura beaucoup de foot. Ce qu'on fait, Oussem, c'est que là, on va aller ranger les rames qu'on a sorties juste là. On va les remettre en régie à côté
de Daniel Torres. En plus, la pelouse est très noyée. Donc, voilà.
On peut juste vous parler de l'ambiance qui, alors, est très feutrée. Et même tout à l'heure, c'est vraiment un derby bizarre du côté de Saint-Etienne, notamment. Parce que toute la semaine, je vous l'ai dit, il n'y avait pas de banderoles, pas de supporters qui sont venus un petit peu titiller l'orgueil de leurs joueurs. Et alors là, tout à l'heure, même quand les Lyonnais se sont aventurés, il y avait Maxence Cacré, il y avait Ryan Cherki, pourtant là il y a du Lyonnais pur sucre, il y avait aussi Jason Denayer, Oh bah la petite vague de désapprobation.
Petit sifflet.
Ouais, c'était léger, c'était gentil. Okay. Voilà, oui, donc bon. Une petite ambiance.
Cas, Edouard, merci Edouard d'avoir sorti les rames aussi
merci
avec
beaucoup.
Nous.
Ouais, dans un instant.
Si vous voulez, on peut déborder. Hein,
y a pas de souci. Non, mais ça y est, c'est bon. Marise, merci, passez une bonne soirée.
Salut Marise.
Le SMS de retour demain, donc dans un instant, l'after.
Avec Gilbert Bribois et Nicolas Villas.
Bonne soirée Oussem, bonne soirée à tous. Merci de nous suivre. À plus. Ciao.
RMC, l'after foot.
Le match. RMC, football. Aujourd'hui à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, aujourd'hui à Montpellier avec RMC.